Idée à lire, les coups de cœur de Laurence, des rencontres avec des auteurs, des lecteurs et pas que. Le deuxième vendredi du mois à 11h sur nos ondes. Bonjour, en cette journée du 8 mars, journée des droits de la femme, j'ai décidé de ne pas vous parler des droits de la femme, ni même de la femme. J'ai décidé de parler avec vous plutôt de thématiques liées au printemps. Alors c'est vrai que c'est le mois aussi du printemps des poètes qui a cette année la thématique de la beauté. Et j'ai travaillé avec mes élèves sur le haïku et c'est pour ça que je suis allée m'intéresser au maître du haïku qui s'appelle donc Matsuo Basho. J'ai lu un ouvrage, un manga de Nao Mizuki qui est magnifique et qui s'appelle donc Matsuo Basho, le maître du haïku. C'est un super manga qui retrace la vie de ce poète, de son éveil à la nature jusqu'à sa mort au bout d'un long voyage. Le livre comprend un encart pédagogique qui permet de définir la forme poétique du haïku, mais aussi le contexte historique, politique du Japon à l'époque donc de Matsuo Basho. Donc j'aime particulièrement évoquer avec mes élèves ce moment de l'enfance du poète où il fait l'école buissonnière. Il ne veut pas assister à ses cours d'arts martiaux puisqu'il est destiné à être un samouraï et il décide donc de s'enfuir dans la nature et son père le rappelle à l'ordre et donc voilà ce qu'il lui répond. « Je préfère être dans les champs plutôt qu'apprendre la calligraphie et les arts martiaux. La campagne et la montagne regorgent de splendeur. Je veux passer ma vie à les contempler. » Le père s'étonne. « Ah, dans ce cas, parle-moi de leur beauté. Quoi ? Si tes explications me permettent de la représenter, tu pourras faire ce qu'il te plaît. » Alors là, le jeune Matsuo Basho commence à essayer de décrire ce qui l'entoure. Les arbres et les herbes sont rouges et jaunes. Il y a aussi des insectes, ils volent au vent et ils sont jolis et amusants. Et là, le père lui dit « Tu saisis, pour l'instant, tu n'es pas encore capable de transmettre le charme des choses que tu trouves belles. C'est pourquoi tu dois étudier. » Donc j'apprécie particulièrement ces deux planches parce que le père n'empêche pas le jeune garçon donc d'imaginer son avenir ailleurs que dans les arts martiaux. Et il y a par la suite un magnifique moment où il est avec donc ses disciples au bord dans la maison de bambou. Et donc, il est en train d'écrire. Et il y a un haïku qui naît. Alors, je vais essayer de vous retrouver rapidement cette page. C'est vrai que je ne l'ai pas pris... j'ai pas pris note de la page. Mais c'était par rapport au saut d'une grenouille. Donc, ils sont tous autour du maître. Et là, ils entendent une grenouille. Le vieil étang, une grenouille s'y jette, doux clapotis. Et j'ai trouvé que dans ce haïku, eh bien, on entendait finalement la grenouille. On a une explication d'ailleurs à la fin du manga pour nous expliquer que finalement le vieil étang, c'est la linéarité, l'horizontalité et la grenouille qui rompt avec le fil de tout ça et qui nous éveille aussi, qui nous perturbe dans notre silence, dans notre recueillement. Donc ce haïku est magnifique à mon sens. Voilà, c'était donc mon premier coup de cœur de ce mois de mars, Matsuo Basho, le maître du haïku.
Vous êtes sur Radio B et vous écoutez Idée à lire.
Et puis, je me suis dit qu'il fallait que je complète mon travail sur le Japon et le haïku par rapport à des connaissances sur les yokai. Alors, qu'est-ce que les yokai ? Eh bien, tout simplement, ce sont les monstres japonais, les démons japonais. Donc, j'ai eu la chance de me rendre au musée des Confluences pour voir cette magnifique expo sur les yokai et je suis tombée sur un petit livre assez intéressant destiné au jeune public qui s'appelle Yokai, le monde étrange des monstres japonais de Fleur Dauget et Sandrine Thomen. Donc, c'est un bel album qui représente la démonologie japonaise assortie de petites histoires. Grâce à ce livre, donc j'ai mieux compris en fait les dessins animés japonais que je voyais plus jeune. Jusqu'à présent, j'avais été assez hermétique à ces dessins animés. Et avec ce livre, j'ai trouvé une sorte de clé de compréhension qui va, à mon avis, me servir beaucoup pour comprendre un peu mieux aussi les films d'animation de Miyazaki et de Osoda. Osoda que j'ai d'ailleurs vu pendant les vacances avec Mirai, ma petite sœur. Eh bien, il y a certains animaux dans Mirai, ma petite sœur, qui sont apparentés donc aux yokai. Donc, je vous ai choisi un petit passage de ce livre Yokai, le monde étrange des monstres japonais, et qui concerne en particulier un animal qu'on voit souvent, c'est Bakeneko, c'est le chat. Le chat qui est sur deux pattes, qui danse, qui parle, qui fait coucou avec la main, comme on peut voir dans certaines vitrines du centre-ville. Et donc, c'est le chat tout-puissant. Comme d'autres, je vous lis donc un extrait, hein, comme d'autres animaux, les chats qui vieillissent risquent de devenir des yokai. Après l'âge de 13 ans, s'ils dépassent un poids de 4 kilos ou s'ils consomment trop d'huile de lampe, ils peuvent se transformer en Bakeneko. Ce yokai ressemble à s'y méprendre à un chat ordinaire, mais il marche régulièrement sur ses deux pattes arrière. Ensuite, plus il vieillit, plus il grandit et ses pouvoirs surnaturels augmentent. Certains deviennent alors aussi grands qu'un être humain. Le Bakeneko s'amuse souvent à se transformer soit en chat apparemment normal, soit en être humain. Il paraît que certains tuent leur maître puis prennent son apparence pour vivre sa vie à sa place. D'autres envoient des boules de feu ou allument des incendies en utilisant leur queue comme une torche. Mais beaucoup ne sont pas si méchants. Ils se contentent de danser avec un torchon sur la tête et de faire des farces. Si la queue d'un chat s'allonge, c'est un signe qu'il est en train de se transformer en Bakeneko. Ainsi, au Japon, il était courant de couper la queue des chatons afin qu'ils ne deviennent jamais des yokai. Donc voilà, c'est un extrait de Yokai, le monde étrange des monstres japonais. Nous allons maintenant faire une petite pause musicale avec un titre déjà vieux, mais ô combien poétique et qui me rappelle quand même, malgré ses airs peut-être un peu plus chaleureux, l'univers japonais des jardins. Et il s'agit de Jardin d'hiver d'Henri Salvador.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cœur. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver.
La chaleur se fait bien ressentir avec cette voix très particulière d'Henri Salvador et nous allons maintenant retrouver un environnement, un univers chaleureux, celui de Chris Gardaz, qui va, après nous avoir un peu dit qu'elle était en attente d'un éditeur pour son deuxième ouvrage, eh bien, elle nous parle de sa troisième œuvre, qu'elle est en train d'écrire, et donc de ses rituels d'écriture. C'est le dernier passage, donc, de cette interview que j'avais réalisée avec Chris Gardaz.
Voilà, et le troisième, oui, il est en cours. Alors, il est en cours, ceux qui suivent ma page Facebook ont vu il n'y a pas longtemps.
Voilà, je suis votre page Facebook et je vois les heures auxquelles vous vous levez pour écrire.
Oui.
Donc ça, c'est aussi, ça fait partie de vos rituels.
Oui,
ça,
oui, ça fait partie de mes rituels, alors je vais y revenir. Et donc, oui, il n'y a pas longtemps, j'hésitais entre la barre de dynamite, que m'a fortement déconseillé donc le Cochrim, ou la barre de chocolat. Je me suis offert une barre de chocolat, yes.
Oui, j'ai vu.
Pour m'encourager, donc toutes les 100 pages, une grosse barre de chocolat. Voilà, j'en suis actuellement à la page 203. Oui, 203. Donc j'ai 203 pages écrites. Ah, par contre, je précise que quand j'avais mis, si j'atteins les 200 pages écrites à la fin de la semaine, évidemment, ce n'était pas 200 pages en une semaine, parce que ça fait plus d'un an que j'ai commencé. Donc j'écris très lentement, sachant que l'année dernière, j'ai eu une grosse période de dédicace où j'étais partie tous les week-ends pendant plusieurs mois, que j'ai un métier, j'ai une famille dont on a déjà parlé, et que j'ai l'écriture aussi. Donc voilà, ça, il faut du temps. Mon heure de prédilection pour écrire, c'est effectivement tôt le matin. J'ai dû lever un petit peu le pied à certains moments de ma vie depuis 8 ans. J'ai eu 2-3 périodes, dont récemment j'ai dû lever le pied pour des raisons un peu quand même de surcharge.
Oui.
Donc voilà, faire un petit peu attention. Mais je reprends là, je me relève à nouveau tôt. J'aime bien écrire tôt, très tôt le matin, quand en fait, justement, le monde dont on parlait tout à l'heure, peut-être que là, je prends de la hauteur, effectivement, en m'élevant au-dessus du monde endormi, parce que j'aime bien cette ambiance-là, et bon, alors, biologiquement, certains vont expliquer ça peut-être avec le chronotype du matin, le chronotype du soir, mais en tout cas, mon niveau ambiance, c'est l'ambiance qui me parle, c'est à ce moment-là que je me sens, en tout cas, le plus connecté, donc tous les liens que vous évoquiez tout à l'heure, et le plus en phase créatrice.
Donc, vous entendez tous les petits bruits de la maison.
J'entends le silence, d'abord.
Ouais.
Et le silence,
c'est précieux.
C'est précieux, il répare, il ressource. Et j'entends surtout ce silence. Et du coup, à l'intérieur de ce silence, j'entends mieux mes personnages. Je sens mieux les connexions. Effectivement, les bruits, du coup, que ce soit de ma maison ou de l'extérieur, me parviennent assourdis. Et pour écrire des polars, c'est génial.
Oui.
Extra. Alors là, par contre, je ne mets pas de musique, par contre, à ce moment-là, puisque l'ambiance est différente.
Oui, et puis vous respectez peut-être le repos
encore. Oui, quand même, aussi.
Et puis, donc, vous prenez votre journée de travail. Vous avez une décharge, vous êtes un peu plus... des horaires, vous êtes un peu plus allégé.
Alors, j'ai une journée cette année de décharge, que je ne pense pas pouvoir conserver l'année prochaine. Donc, c'est assez... c'est un peu un marathon quand même, pour se dégager du temps pour écrire. On a envie. En fait, c'est terrible parce que On est en manque d'écriture quand on n'écrit pas. Et puis quand on déconnecte trop longtemps, puisque les aléas de la vie font que parfois, malheureusement, on ne peut pas écrire tous les jours, puisque justement, je ne vis pas de mon écriture. Hein. Oui. Eh bien, c'est très, très dur de se remettre, en fait, de reconnecter, de reprendre, de renouer les liens qui ne soient pas cassés. Il me faut toujours une demi-heure. Donc, c'est vrai que là, ce que j'ai abandonné maintenant, c'est écrire avant d'aller travailler. Parce que je n'y arrive plus. Ça me prend trop de temps pour me reconnecter le matin. Et après, pour ma journée de travail, en fait, c'est très violent. J'ai du mal à abandonner l'écriture. Et c'est vraiment violent pour moi, du coup, de me mettre dans autre chose et de me dire que j'ai abandonné les personnages et les histoires comme ça et que je ne sais pas quand je pourrai les retrouver. Donc j'essaie plutôt de prendre au moins 2 heures le matin quand je ne vais pas au travail, le week-end, je prends plus. Les journées où comme je fais passer bien sûr ma famille avant, mais les journées où je peux écrire 6 heures, 7 heures, c'est... C'est waouh. Là, j'avance. Oui. Là, j'avance, ouais.
Mais ça demande... Enfin, ça doit être beaucoup plus fatigant, finalement.
Oui, en fait, c'est fatigant d'écrire, c'est fatigant de ne pas écrire. Mais c'est pas la même fatigue. C'est pas du tout la même fatigue. Mais en même temps, c'est passionnant, c'est porteur. C'est... Ouais, je vis... Je ne vis pas, je disais, de mon écriture de façon pécuniaire, financière, mais par contre, je vis de mon écriture par tout ce que ça m'apporte.
Alors, le soir, il ne vous viendrait pas l'idée d'écrire ? Vous êtes trop traversé par plein d'idées de tout ce qui s'est passé de la journée ?
Oui, ça. Oui, après, ça peut être canalisé par l'écriture. Mais j'ai déjà écrit si, le soir quand même, hein, parfois, parce que justement, comme je n'avais pas pu le matin, que c'était plus compliqué, donc j'écris un peu le soir malgré tout, ou alors je note beaucoup, donc je note des idées, si c'est pas le texte, je vais noter, ou je vais réfléchir aussi, je vais penser, je vais laisser les idées m'envahir, et puis ça me servira après, mais ça peut aussi arriver le soir.
D'accord.
Dès que je peux.
Et vous piochez donc beaucoup dans, même pendant la conception même du livre, vous piochez donc dans vos boîtes tout au long de la conception ou
Non, les boîtes, je les ouvre, les grosses boîtes là que vous voyez, je les ouvre qu'au départ. Qu'au début, quand je commence à élaborer la structure du livre, que grosso modo, j'ai la trame qui se met en place. Là, c'est là que j'ouvre les boîtes, que je sors les petits papiers, que je dis « Ah oui, ça ». Après, ces boîtes, je les referme. Ce que je vais garder tout au fil de l'écriture, c'est quand même des petits papiers, mes carnets. Là, je reviens à mes carnets. Je relis les notes que j'ai prises lors des différentes rencontres sur des thèmes très différents, les deux autres thèmes dont je ne parlerai pas aujourd'hui pour le livre en cours, mais je reviens sur ces notes-là, je reviens sur ce que j'ai écrit tout au début aussi, donc là par exemple pour le troisième polar de la série Elliot Steve, j'ai commencé il y a un an, une bonne année, donc évidemment que parfois c'est utile de relire ce que j'ai mis il y a un an parce que ça peut réenclencher quelque chose. Et puis je sais pas forcément ce que je vais écrire demain. Je sais, comme je vous le disais tout à l'heure, je sais où je vais, mais ce que je vais écrire va dépendre de beaucoup de choses.
Alors quand vous écrivez, on va dire à peu près un format, ça se compte pas comme ça certainement, mais une page, on va dire ça comme ça. Donc, vous écrivez à main levée cette page ?
Non.
Non ?
Non, sauf si je suis... par exemple, si je pars 15 jours en vacances, là oui, je n'emmène pas mon ordinateur. Enfin, je l'ai fait une fois. Oui, ça me rappelle une autre anecdote, mais je vais la zapper. Sinon, j'emmène donc des carnets. Carnet de voyage, mon bezel book. Et là, donc, j'ai quelques bouts de chapitres ou chapitres écrits, passages écrits comme ça à main levée. Oui, ça oui. Par contre, c'est une infime proportion. La plupart du temps, je suis quand même chez moi, donc j'écris directement sur l'ordinateur. Donc oui, on peut parler de pages, parce que moi, j'ai mis un format A5, en fait, pour mes tapuscrits. Ça correspond grosso modo à une page après imprimée du livre, grosso modo d'une page. Donc oui, j'écris directement cette page sur l'ordinateur.
D'accord.
Et je suis très lente.
Et quand vous êtes dans ce temps d'écriture, donc vous écrivez votre page, vous y revenez le jour même?
Oui. Je n'arrive pas, je pense qu'il y a des auteurs qui font ça, qui font ça très bien, qui écrivent vraiment un premier jet comme ça, qui se laissent porter, qui reviennent qu'après. Moi, mon premier jet, il est déjà extrêmement, en fait, travaillé. Enfin, disons que la première fois que je fais lire mon tapuscrit, à quelqu'un, donc là les 100 pages, donc il y a 3 personnes qui l'ont lu, les 200 pages, il y aura 3 autres personnes, enfin les 2 enfin 3 personnes, bon, peu importe lesquelles, qui vont le lire aussi. Donc, mais ces 100 pages là, elles ont été déjà énormément travaillées, elles vont être retravaillées parce que je pense que c'est bien qu'à un moment donné le livre soit imprimé quand même, parce que sinon j'y reviendrai tout le temps. Je suis pas forcément satisfaite de ce que je fais. Voilà, donc je pense, à mon avis, à beaucoup d'auteurs, c'est ça aussi. Ils auraient envie de reprendre tel mot, reprendre telle phrase. Mm-hmm. C'est jamais complètement tel qu'on aimerait que ce soit. Voilà. Peut-être qu'on peut trouver la perfection dans un autre auteur que soi. Mais quand c'est nous qui écrivons, c'est très très difficile de trouver que c'est vraiment abouti. Mais en tout cas, c'est vraiment repris. Et une page, moi, je la reprends au fur et à mesure. Donc déjà, rien que pour une page, je vais mettre une heure.
D'accord.
Les bons, quand je suis vraiment vraiment inspirée, mettre une demi-heure. Mais parfois, ça va me prendre 2 heures parce que je reviens. Et je suis perfectionniste dans le sens où je peux passer 10 minutes à hésiter sur la place d'une virgule aussi. Donc je vais dire, ah non, là c'est quand même beaucoup mieux comme ça, puis finalement ça va m'énerver, je vais revenir, je vais remettre la virgule. Donc c'est, ou un mot, et je le sens, je le sais maintenant, j'écris ma phrase, il y a un mot qui me dérange un peu, puis je me dis, ah non, c'est bien comme ça, je continue, mais au fond de moi je sais qu'en fait je vais revenir, et finalement effectivement à chaque fois je change ce mot, il ne me convient pas. Donc j'aime bien que le mot soit juste, le mot parle vraiment, que dans la phrase, il fasse écho à ce que moi, je veux faire passer, ce que je veux dire, et que du coup, le lecteur, il puisse aussi retrouver cet écho-là.
Est-ce qu'inconsciemment, vous mettez des choses en œuvre dans votre écriture qui ont un autre sens que la première lecture?
Précisez un peu.
C'est-à-dire que vous rendez compte, vous avez écrit votre histoire, on la lit, mais en fait, quand on gratte un peu, on voit qu'il y a toute une trame derrière encore beaucoup plus, sophistiquée.
Alors, je ne pense pas que ce soit inconsciemment, c'est consciemment.
C'est conscient.
Oui. Alors, il y a certainement des choses inconscientes. Toute œuvre pourrait être analysée, après, pourrait certainement aussi, dans l'analyse, par cette analyse, faire bondir son auteur. Donc, certainement qu'il y a une part inconsciente dans ce que vous dites, quand j'écris. Mais par contre, quand vous dites que vous grattez, que vous allez trouver certaines choses, moi, je suis ravie, parce que il y a plein de choses, que ce soit les romans jeunesse ou le polar, que j'ai mises derrière. D'ailleurs, que peut-être même j'ai oublié maintenant, mais dans le processus qui était très important pour moi sur le moment. Heureusement d'ailleurs aussi que je ne me rappelle pas de tout, parce qu'à un moment, ma tête exploserait. Mais oui, il y a plein de petits trucs. Donc, le lecteur va les trouver ou pas. Moi, je suis contente quand quelqu'un me dit « Ah, mais il y a ça !» Ah oui, il y a ça. Mais c'est mon petit plaisir à moi. C'est un peu comme... Voilà, un peu comme on fait des fois une chasse au trésor, on cache des petites choses. Si on les trouve, c'est bien. Si on les trouve pas, tant pis.
Oui, et puis en même temps, après, une fois qu'il est sorti, qu'il est sur un rayon de libraire...
Ah oui, bah après...
Voilà, on fait parler...
Vie,
voilà, et on fait parler toutes ces références en tant que lecteur.
Oui.
Qui sont pas forcément vos références non
bien
plus.
Bien sûr, pour ça qu'il y a aussi certainement de l'inconscient... qui va parler à des lecteurs, et moi je ne maîtrise plus tout ça, quoi.
Alors tout à l'heure vous disiez que pour vous, vous auriez toujours envie de reprendre votre livre parce que vous avez ce sentiment qu'il n'est pas parfait. Pourtant,
oui. Non, mais il ne l'est pas, ça, par contre c'est sûr. Oui. Je pense qu'aucun livre n'est parfait.
Bien sûr.
Surtout pas là.
Mais il y a un moment où vous avez un déclic.
Il y a un moment où le moment où j'ai un déclic, c'est quand je me mets à pleurer. Ah ouais, là, j'ai le déclic. Là, je sais. Tout le monde, c'est autour de moi. Ah, elle a fini son livre. Elle pleure une semaine. Donc là, c'est ce que j'ai appelé mon book blues. Mm-hmm. Parce que la première fois, ça m'a fait bizarre, quoi. Alors, il y a le baby blues et c'est un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire que j'ai un moment de déprime. Et quand j'ai ce moment de déprime, il y a deux déclics. J'ai ce moment de déprime, je sais que c'est fini. Je sais que ça y est, j'arrive au bout du livre. Ce qui n'empêche pas le travail après quand même de relecture et de correction. Mais en tout cas, le livre est fini. Et la deuxième chose, c'est que l'idée du prochain livre s'impose. Il y a toujours un moment donné où il se côtoie. Mm-hmm. Et donc, je sais aussi que j'arrive à la fin du livre en cours, puisque je n'attends pas d'avoir complètement fini pour penser au prochain. C'est plutôt... l'idée du prochain, la trame du prochain qui s'impose à moi quand je suis en train de terminer le livre en cours.
Donc vous passez de Carrie Bansky là.
Oui.
En fait, vous êtes toujours dans un projet.
Toujours, oui.
Toujours en avant, vous avez pas ce syndrome de la page blanche.
Alors, j'ai eu le syndrome de la page blanche dans l'écriture pure. Pas dans les idées, pas dans les projets. J'ai deux fois... c'est vraiment la première qui m'a le plus marquée. Maintenant, je panique moins. Pour mon premier roman, donc, je me rappellerai toujours, ça ne correspond pas du tout au chapitre actuel. Hein. C'était vraiment le chapitre de départ qui était très très long, parce que je ne sais pas pourquoi, je trouvais que des chapitres de 30 pages, ce n'était même pas assez. Donc heureusement que ça a été changé. Donc c'était le chapitre 14. Je me revois dans ma cuisine avec ce numéro 14 en haut de la page et de la page blanche. Ça a duré 3 jours. J'allais vers l'ordinateur, je l'allumais. Le troisième jour, j'en tremblais presque, quoi. J'avais les mains moites et j'étais sûre que je ne pourrais plus jamais, jamais, jamais écrire un mot de ma vie. C'était horrible. Et là, je disais, mais punaise, mais je suis en plein dans le cliché, quoi. Le cliché de l'auteur face à sa page blanche. Mais je le vivais, alors c'était quand même violent. Et le quatrième jour... c'est presque biblique. Faut pas que je parle comme ça. Le quatrième jour, bon, ouais. C'est venu d'un coup. Et là, alors ce chapitre, il a été écrit très rapidement et de façon fluide, alors que c'est celui qui m'a le fait le plus angoisser. Donc aussi, le syndrome de la page blanche, je peux l'avoir au moment de l'écriture elle-même.
Alors, on l'a vu ensemble aujourd'hui, ce travail de jeunesse de l'œuvre, vous le construisez parfaitement. Vous n'avez jamais pensé à écrire un genre un peu plus court, une nouvelle ?
Alors, j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec un professeur de français. J'ai dû y penser puisqu'on m'a proposé plusieurs fois d'écrire... une nouvelle, de participer à un recueil de nouvelles, etc. Et à chaque fois, j'ai refusé, j'ai fait marche arrière, parce que peut-être que ça viendra un jour, je ne sais pas, mais en tout cas, dans l'immédiat, je ne pense pas du tout que je serai une bonne auteure de nouvelles. Je ne sais pas si j'arriverai à écrire une nouvelle, parce que je suis plutôt romancière dans l'âme, et quand j'ai une idée, en fait, j'ai une autre idée qui vient, et puis encore une. Et la nouvelle, quelque part, ça me fait presque peur par sa concision. Et du coup, je pense que je serais frustrée de ne pas avoir pu développer telle ou telle idée ou tel personnage. Et je crois que les auteurs de nouvelles, ils sont super forts, quoi, parce qu'ils arrivent à faire passer en quelques pages quelque chose d'intense, et ils ont une fin qui est une vraie chute, qu'on ne voit pas forcément arriver. Moi, déjà, quand j'étais élève et que je devais écrire un résumé, je n'étais pas très, très bonne dans tout ce qui était concision, en fait. Par contre, j'aimais bien développer... Donc, je ne sais pas. Après, il y a des auteurs de nouvelles. Moi, que oui, j'ai découvert, par exemple, T.C. Boyle. J'ai adoré les nouvelles qu'il a écrites. Je crois que c'est 25 histoires d'amour, il me semble, quelque chose comme ça. Pourquoi pas ? Peut-être qu'un jour, j'essaierai. Mais alors, je ne suis pas sûre que je la montrerai. Mais pour l'instant, non, je n'ai pas écrit de nouvelles.
Oui, pourquoi pas, après les polars, pourquoi vous parliez pas. D'une romance, peut-être que vous allez venir
peut-être,
aux nouvelles.
Peut-être.
Parce que c'est vrai que c'est un art vraiment très particulier. J'ai rencontré un novelliste qui est poète aussi, donc sur le salon du livre d'Attigna, Marc Menu, et il fait des nouvelles vraiment... Enfin, vous parliez de quelques pages. Lui, ça tient juste en un recto.
D'accord.
Et quelquefois, c'est seulement 3-4 lignes. Mais tout est dit.
Mais c'est comme dans les poèmes aussi. Donc, il y a les haïkus, ces petits poèmes très, très courts.
Tout à fait.
Ouais, qui peuvent dire plein de choses. Donc, voilà, c'est
on
tout un art.
On saisit une émotion et c'est...
De façon très précise. Ouais. Et je pense que c'est très compliqué. Donc, ça m'intéresse. Je suis admirative des gens qui arrivent à faire ça. Pour l'instant, je ne me suis pas essayée au genre.
Plus que la concision, c'est la peur de ne pas trouver une chute aussi brillante que ce qu'on a à dire.
Peut-être. Moi, c'est la concision. Après, chute, je ne suis pas certaine de trouver des fins brillantes. La fin m'importe énormément. Maintenant, je ne sais pas comment le lecteur l'aperçoit. Enfin, je sais par ceux qui m'envoient des messages. Et ça, c'est énorme pour les auteurs quand on reçoit des messages de lecteurs parce que, du coup, on a quand même un retour sur ce qu'on a écrit. On voit voilà, ce qui a parlé ou pas. Donc, bon, j'ai des retours par rapport à la fin, donc, dans Le silence des oiseaux, bon, qui apparemment interpelle et plaît, mais... C'est très dur quand même de trouver une fin qui brillante. Je ne sais pas si on peut trouver une fin brillante, mais en tout cas prenante, qui soit une fin qui nous marque quand même.
Et je crois que dans Le silence des oiseaux, vous avez fait une belle fin. Parce que bien souvent, la fin, c'est ce qui va rester au lecteur.
Oui.
Très souvent, c'est le dernier mot. Et vous avez des auteurs qui ont fait des livres magnifiques, très prenants, et la fin déçoit.
Oui.
Et c'est assez terrible parce qu'on le vit quelquefois en tant que lecteur comme une trahison.
C'est vrai.
C'est très fort hein, comme terme, j'entends bien.
Non,
mais
c'est vrai.
Voilà, il y a des livres comme ça, je me dis, la fin, elle est ratée. Et ça ne pouvait pas être autrement parce que le livre était tellement génial que la fin, il ne pouvait pas faire mieux. C'était pas possible ou alors ça aurait été surpris. Voilà. Et là, dans Le silence des oiseaux, eh bien, la fin... on quitte ces personnages à regret. Vraiment, on a envie d'en savoir plus. Et vraiment, ce personnage de l'enquêteur et même cette jeune femme libraire, on a envie de les côtoyer de nouveau, de les retrouver.
Tant mieux. J'en suis ravie parce qu'effectivement, moi aussi, en tant que lectrice, quand j'ai une fin qui me déçoit, c'est toujours un peu douloureux. Et à l'inverse, ce que j'aime, ce qui est vécu comme une souffrance aussi, je pense que vous allez bien comprendre ce que je vais dire et certains auditeurs aussi. C'est-à-dire que parfois, on se dépêche de lire et en même temps, on ralentit aussi sa lecture et on a envie d'être à la fin. En même temps, quand on a fini, on est hyper déçu. Pas par la fin, mais parce qu'on a fini et qu'on aurait aimé rester dans ce livre, rester dans l'histoire et rester avec les personnages. Donc là, si vous avez eu envie de rester avec mes personnages, j'espère que vous en retrouverez quelques-uns, un ou deux, ou voilà, et dans un prochain.
j'ai hâte de tout ça. Alors, sur votre troisième opus, vous en êtes, là, sur votre polar, qui est en train de se concevoir.
Oui.
Vous en êtes donc à plus de 200 pages. Mm-hmm. Vous avez un format en tête ?
Je dirais autour des 300 pages. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Je dirais qu'à peu près la deux tiers de l'histoire. Mais ça peut changer au fil de l'écriture. Et en reprenant après le texte dans sa globalité, je peux étoffer ou à l'inverse couper. On va dire autour de 300. En principe, les romans que j'ai déjà sortis, ils ont été recoupés, les premiers, mais au départ, ils faisaient entre 300 et 400 pages. Le polar, il doit, dans Le silence des oiseaux, il doit faire 320 pages, je crois, quelque chose comme ça, il me semble.
D'accord. C'est quelque chose que vous avez vraiment en tête, le format,
non.
Quand vous écrivez ?
En fait, non. Je n'écris pas en me disant il y aura tel nombre de pages. Mm-hmm. Non. J'écris et l'histoire, elle se construit et je sais à un moment donné que ça fera à peu près tant de pages. Et moi, du coup, je pense que oui, je suis à peu près régulière par rapport à ça puisque pour l'instant, tous mes livres ont fait entre 300 et 400 pages. Mais pareil, peut-être qu'un jour, je ferai un tout petit livre de 150-200 pages. Je pense pas que je ferai un... Plus que 400 quand même, pour différentes raisons, parce que Il faut de l'énergie, il faut du temps, etc. pour écrire. Moi, comme je l'ai dit plusieurs fois, je suis quand même assez lente, je prends mon temps. Et puis peut-être que oui, j'aurais envie de passer à autre chose. Et je n'écrirai plus de trilogie non plus, ça je le sais, puisque la première, finalement, ça m'a fait entre 900 et 1000 pages. Et c'est quand même un exercice périlleux. Donc là, je préfère être... parce que pour se rappeler quand même, être cohérent par rapport à ce qu'on a écrit 1000 pages avant, c'est pas évident. Là, je préfère être dans une série. Là, c'est vrai que moi, j'adore les séries. Et du coup, là, je suis contente d'avoir commencé une série avec Elliot. Et donc ça me plaît. Maintenant, est-ce que dans cette série pourrait rentrer un plus petit livre? Peut-être, je ne sais pas. Ça, à l'avenir, je ne sais pas du tout.
Par contre, les éditeurs, eux, l'ont bien en tête, ce chiffre?
Je pense que pour les éditeurs jeunesse, ça doit compter, puisqu'il me semble que quand je cherchais des éditeurs jeunesse, certains demandaient un format particulier. Après, il y a un nombre de caractères. De toute façon, on ne peut pas envoyer en dessous de tant de caractères. Donc, ça peut compter. Oui, je crois que pour certains éditeurs, ça doit compter. Là, pour mon éditeur actuel, non, ça n'a pas été une donnée. Mais oui, je me rappelle, par contre, pour les romans jeunesse, il y avait quand même, effectivement, des critères pour l'envoi des manuscrits.
J'ai envie de parler maintenant un petit peu de vos lecteurs.
Oui.
Donc, vous avez écrit pour la jeunesse.
Oui.
Et l'envie d'écrire pour des tout-petits ne vous viendrait pas?
Alors, au départ, Les Voyageurs des Miroirs, je pensais que ça serait une histoire presque pour plus petits, puisque mes enfants étaient petits. Et puis, je sais pas, je voulais écrire une histoire pour les petits. Donc, d'ailleurs, le début, je ne sais même plus, le premier tapuscrit, bon, il doit être quelque part là, je ne sais même plus comment je l'avais appelé, mais c'était un tout petit, d'ailleurs qu'on retrouve dans la forêt des trolls, on peut repris ça, et je l'avais écrit au présent, et je l'avais écrit avec un vocabulaire beaucoup plus simple, etc. Et finalement, ça ne m'a pas convenu. Donc j'ai tout remodifié, j'ai étoffé, j'ai écrit, là j'ai continué à écrire pour mes enfants mais aussi pour moi. Et moi la langue qui me parle le plus, et qui n'est pas forcément la langue d'auteur que moi je vais adorer, mais en tout cas celle qui me parle le plus pour écrire, c'est quand même le passé simple. Et donc j'ai tout refait, j'ai tout réécrit au passé simple, j'ai tout repris, etc. Et je me suis aperçue que non seulement en fait j'écrivais pour les jeunes, mais quand j'ai commencé donc à faire lire Les Voyageurs des Miroirs, je me suis aperçue aussi qu'il y avait beaucoup d'adultes qui me lisaient et qui se retrouvaient par rapport à tout ce dont vous parliez tout à l'heure, inconscient ou consciemment, mais dans les petits clins d'œil que j'avais pu faire, dans les messages que j'avais pu faire passer, parce que, par exemple, pour Le Secret du Cyclope, eh bien, je dénonce... dans un autre, alors, je dénonce le travail des enfants, parce que c'est un rapport avec le monde des géants, donc c'est pour ça. Ouais. Dans Le Secret du Cyclope, je dénonce l'apartheid.
D'accord.
Donc ça, l'apartheid, les adultes, ils vont tilter parce que voilà, la ville qui est faite de trois cercles et interdiction de se côtoyer d'un cercle à l'autre sans laisser passer, enfin bon bref, il y a même le grand-père de Rosendie en fait qui est détenu sur une île et je lui ai donné le matricule de Nelson Mandela. Mm-hmm. Donc voilà, c'est les petites choses dont on parlait tout à l'heure, ce qu'il y a derrière. Donc tout ça, ça parle aux adultes. Et donc je m'étais interdit à l'inverse d'écrire pour les adultes parce que je pensais que je ne pourrais pas écrire pour des adultes, mais finalement je me suis aperçue que je prenais plaisir et que j'avais besoin aussi, moi peut-être, de tester un autre genre. Donc je suis plutôt partie de peut-être que je pourrais écrire pour les tout-petits à peut-être que je pourrais écrire pour les adultes. Donc là actuellement j'écris pour les adultes parce que je me fais plaisir en écrivant pour les adultes, en me lâchant, ce qui n'a pas été facile parce qu'il a fallu que j'abandonne ma plume jeunesse pour arriver à une plume plus adulte, parce que quand on écrit pour quand même un public jeune, ben, y a quand même des mots qu'on n'utilise pas, hein, aussi, y a des choses qu'on ne dit pas aussi, des scènes qui peuvent être un peu plus violentes, etc. Donc voilà. Par contre, j'ai un petit tapuscrit que j'avais écrit pour mes enfants, vraiment tout petit, avec quelques illustrations que j'avais tenté de faire d'ailleurs. Et là, ça serait vraiment pour des tout petits. Donc peut-être, pourquoi pas, un jour, ça viendra. Je ne sais pas, ou ça reviendra.
Oui, bah, très bien. En tout cas, je vous remercie vraiment de tout le temps que vous nous avez accordé pour cette interview. Et puis, j'essaierai de vous suivre encore pour la création de ce troisième polar.
D'accord, bah,
pour,
merci à
vous. Prendre des nouvelles, savoir comment il avance.
Comment j'avance.
Voilà, parce que tout ça, ça nous intéresse énormément. Savoir comment un livre, finalement, naît sur les rayons. Voilà. C'est une grande aventure.
Oui, c'est une
aventure. On l'a bien senti. Et que vous prenez ça à bras le corps et c'est la force qu'il y a en vous, qui est une force créatrice, c'est magnifique. Est-ce que l'auteur est un tout petit peu quand même un dieu ?
Oh mon dieu, non. Enfin, moi. Je pense que justement, il ne faut pas se prendre pour Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure, je regrettais de parler presque de façon biblique. Il ne faut surtout pas se dire que non, on ne peut pas. On est tous un peu créateurs de notre propre vie. Donc, c'est comme ça que je me vois aussi. Et peut-être, vous parliez de l'aspect thérapeutique, peut-être soignant, quand on va échanger ou proposer notre livre. Donc, tous ces termes-là, oui, je les veux bien. Auteur, créateur, soignant, etc. Ok. Non, on crée notre monde, on crée. Mais non, je préfère quand même m'en éloigner. Et puis ce serait trop de responsabilité, vous imaginez. Non.
Mais c'est vrai que quand je repense à tout ce que vous nous avez dit, il y a une partie où vous êtes un petit peu sur des points de vue, on va dire, omniscients, et d'autres moments où on voit bien que vous êtes sur des points de vue externes, parce que vous nous avez parlé de vos personnages qui vous surprenaient.
Oui. Donc après, je pense que si... voilà. Beaucoup de croyants, donc si Dieu existe, voit les personnages qu'il a créés lui-même, peut-être est-il surpris aussi. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, oui, je suis surprise par les personnages que j'ai créés, mais non, je ne pense pas que l'auteur puisse se considérer comme un dieu. Je pense qu'au contraire, il doit plutôt se considérer comme au service de lui-même, au service aussi de ses lecteurs. À partir du moment où il envisage de partager ce qu'il écrit, on peut écrire et puis garder pour soi, c'est son choix. Il y a plein de gens qui écrivent aussi, moi j'en rencontre plein de gens qui écrivent, c'est génial, j'adore discuter avec eux. Mais si on partage, on se met aussi au service de nos lecteurs. Donc je pense que là, c'est plutôt les lecteurs qui sont les dieux, c'est eux qui vont décider, c'est eux qui vont faire le jugement, le jugement dernier. C'est quand même les lecteurs qui l'ont, donc voilà, plutôt inversé.
Une autre expression, hein, jugement dernier.
Alors, m'arrêter.
En tout cas, je vous remercie beaucoup de tout ce temps.
Merci Laurence, merci.
Merci Chris, et je vous dis à très bientôt.
À très bientôt, au revoir.
Au revoir.
C'était donc la fin de notre interview avec Chris. Quittons donc ce petit lieu de grande création et nous allons maintenant rejoindre les extérieurs avec un ouvrage que j'avais envie de vous présenter qui fait partie d'une plus grande collection qui met à l'honneur les street artistes. Donc c'est la collection Opus Dei. Je vais vous parler plus particulièrement de ce petit livre que j'ai lu sur Mademoiselle Maurice qui fait des origamis. Vous voyez qu'on retrouve encore des thématiques liées au Japon entre haïku et origami et yokai. Bref, on est parfaitement dans cette thématique. Donc, par rapport aux origamis de Mademoiselle Maurice, j'ai pu en apprendre davantage sur cet artiste grâce à cette petite collection écrite ici. C'est un petit livre écrit par Crixel. Les textes sont intéressants pour présenter les parcours. On a bien évidemment énormément de photos pour mettre en évidence le travail de l'artiste et il y a une interview dont je vais vous lire la fin. Donc c'est cette interview qu'on peut lire dans Mademoiselle Maurice, Origamisme vivant de Crixel. Que souhaiterais-tu dire à nos contemporains? En somme, quel est ton message? que le pouvoir et l'argent ne sont pas vitaux, les plus belles valeurs sont gratuites, accessibles à tous, que la société capitaliste et ultra-consommatrice qui nous est proposée n'est pas la seule manière de voir le monde. Les publicités sont là pour créer des besoins, mais on peut consommer différemment au quotidien et réfléchir à chacune de nos actions, aussi petites soient-elles. Les sourires, les mots gentils, la générosité, la bienveillance ne coûtent rien, mais offrent beaucoup. Personne n'est irréprochable, moi la première, mais on peut toujours essayer de s'améliorer au quotidien, du moins essayer. Une devise, un mot, un credo ? L'altruisme, au quotidien. L'art et la méditation, les deux étant à la portée de tous, peuvent être à la base d'une contagion de l'amour et du bonheur. Enfin, j'y crois dur comme fer, et quitte à vivre, autant vivre dans cette voie-là, sinon... à quoi bon ? Voilà, donc c'était un extrait de l'interview de Mademoiselle Maurice par Crixel dans ce petit livre donc, qui s'appelle Mademoiselle Maurice, origamisme vivant de la collection Opus Dei. Nous allons faire maintenant une pause musicale avec Nico Paul et Night of Nostrum.
Sometimes there
après donc ce petit voyage que je me suis organisé dans le Japon entre haïku, yokai, origami, je me suis dit qu'il était temps maintenant d'envisager un peu plus de sérénité et peut-être par le biais de mieux me connaître. C'est pour ça que j'ai abordé un autre ouvrage qui s'appelle « Croire en soi » de Marie-France Muller. C'est un petit livre pour se tester, pour se trouver, se confronter à soi-même et à la vie de son entourage et avancer en vain vers plus de sérénité avec des petits exercices simples, peu chronophages et des exercices de bon sens. Alors je vais vous lire juste un petit passage, un des derniers chapitres qui s'appelle « S'aimer soi-même » parce que ça, c'est très important. Il reste quelques intéressantes questions à vous poser. Répondez honnêtement. Est-ce que je m'aime vraiment? Qu'est-ce que j'aime en moi? Quelles sensations ces questions suscitent-elles en moi? Bien-être, malaise, évidence? En effet, bien souvent, la simple évocation de l'amour de soi éveille un curieux sentiment de malaise lié à l'interprétation judéo-chrétienne déformée tendant à nous faire croire que nous devons nous oublier nous-mêmes en faveur de Dieu et de notre prochain. C'est une aberration évidente, mais à laquelle nous avons pris l'habitude de croire sans jamais la remettre en cause. L'image du martyr et du saint qui se sacrifie a trop souvent été mise en exergue durant notre enfance pour que nous n'en gardions pas quelques traces. Ce n'est cependant pas ce que disaient les évangiles, comme le soulignait justement Ulrich de Mayence, « Si je n'ai pas d'amour pour moi, je fais insulte à mon Créateur. Comment aimerais-je les autres, faits de la même chair et du même esprit? Si je ne suis pas heureux, comment apporterais-je aux autres du bonheur? Je ne pourrais partager que ce que je possède, à savoir tristesse, frustration, épuisement, manque. Est-ce bien cela que je désire pour ceux que je pense aimer et auxquels je désire tant venir en aide ? Répondre à ces questions est hautement curatif. Voilà, donc c'était un extrait de « Croire en soi » de Marie-France Muller. Vous êtes sur Radio B et vous écoutez Idéalire. Et puis, j'ai fini ma petite sélection sur un ouvrage d'Agnès Ledig, un feel-good book bien mené. On regrettera plus tard. Un roman à plusieurs voix qui entremêle différentes vies avec différents espaces temporels. Donc parfois en 1944, parfois en 2010. On suit les vies de Valentine, Eric, Gaël, Anna, Nina et dans un autre espace, celle de Suzanne. Donc je vais vous lire un extrait de ce magnifique roman qui nous fait nous sentir bien. Elle est adorable, la fille que j'ai toujours rêvé d'avoir. Valentine, tu files un mauvais coton, ne t'attache pas à elle si tu ne veux rien savoir de lui. Ils sont comme la lune et le soleil, comme la locomotive et les wagons, comme le sable et la mer, l'un ne va pas sans l'autre. Je sais, mais tu me connais. Justement, soigne-toi pour pouvoir l'accepter, lui, ou alors oublie la petite. Toi aussi, tu vas souffrir. Je ne peux pas ne pas m'attacher à elle. Ça faisait longtemps qu'un enfant ne m'avait pas émerveillée ainsi. Valentine, chez toi, l'éblouissement est permanent. Tu es capable de t'émerveiller devant tes essuie-glaces qui battent la mesure de la musique de ton autoradio. Pas toi ? Non, pas moi. Peu de gens, je crois. Ah, donc raison de plus pour être émerveillée par cette gamine. Alors émerveille-toi pour son père aussi et pas que pour son corps. Allez, c'est l'heure. Valentine, va voir quelqu'un pour arrêter de fuir les hommes. Quelqu'un ? Toi non plus, tu n'arrives pas à prononcer le mot psy. Va voir un psy ce que tu veux, mais aide-toi un peu, bon sang. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Moi, j'aime trop à la fois, c'est différent de toi. Et pourquoi tu as les yeux rouges ce matin? Au moins, quand on ne s'attache pas, on ne souffre pas. J'étouffe avec un homme à la maison. Il n'y a que sous la couette que tu n'étouffes pas, c'est un comble quand même. Ça me convient bien comme ça. Bien sûr que non. Tu t'attaches à une enfant sans vouloir entendre parler de son père alors que leur lien est indéfectible. Tu espères quoi? Qu'un enfant viendra nous dire que c'est l'heure d'entrer en classe pour que tu arrêtes de me sermonner. C'est quand tu sais que j'ai raison que tu brandis la pancarte du sermon. Allez, file parler de ta vie à tes élèves et réfléchis à la mienne. Donc, je trouve que dans les propos dans ces mots d'Agnès Le Digue, il y a énormément de sensibilité. Ça me parle vraiment, cette histoire de Valentine qui est dans le refus de l'homme, mais qui veut cet enfant, qui s'est attaché pour l'enfant d'un homme qui est arrivé un peu par hasard chez elle, et cet ami qu'elle a, qui s'appelle donc Gaël, et qui lui est confronté à son amour pour deux femmes. Bref, c'est extrêmement bien mené, et je vous en conseille la lecture donc de On regrettera plus tard, d'Agnès Le Digue. La sélection de ce mois-ci est terminée. On se retrouve le mois prochain alors que le printemps aura commencé. D'ici là, profitez bien du printemps des poètes et du printemps tout simplement. Retrouvez l'émission sur notre site radio-b.fr puisque l'émission est podcastée, et sinon en rediffusion dimanche. À bientôt !